Bonjour, je suis Céline Kallmann. Bienvenue dans le titre à la une. Il est surnommé par la presse le violeur de Tinder. Salim Berada, comparé jusqu'au 29 mars pour viol et agression sexuelle. Il est accusé par 17 femmes approchées sur des applications de rencontres. Il évoque des relations consenties. Les victimes affirment avoir été droguées.
L'actualité judiciaire et l'ouverture du procès de celui qu'on a surnommé le violeur de Tinder, Salim Berada, est jugé pour 13 viols, 4 agressions sexuelles. Le photographe, aujourd'hui âgé de 38 ans, donnait rendez-vous à des jeunes femmes via des sites de rencontres. Sa ligne de défense est simple. Grand séducteur, oui. Violeur, non.
Il a 38 ans et depuis ce lundi 18 mars, Salim Berada comparaît devant le palais de justice de Paris, accusé par 17 femmes de viol ou d'agressions sexuelles. Certaines d'entre elles ont dissimulé leur visage avant d'entrer dans la salle d'audience au début du procès. Les plaignantes décrivent tout un schéma identique. Ce photographe de mode leur propose, via une application, de se rencontrer pour une séance photo dans son appartement. Maître Fanny Vial, l'avocate d'une des victimes.
Elle devait assister à une réunion professionnelle à l'occasion de laquelle elle devait sortir avec un book et des photos qui devaient lui permettre de se lancer dans sa vie professionnelle. En aucun cas, elle n'était partante ni pour boire de l'alcool. D'ailleurs, elle n'a pas bu de l'alcool. Elle ne voulait absolument pas tisser un lien personnel avec cet individu. Elle voulait simplement ressortir avec des photos. Et à la place, elle est ressortie avec 7 ans de procédure et un traumatisme qui, encore aujourd'hui, est palpable. Elle sera entendue par la cour criminelle. Mais effectivement, ces femmes sont encore en grande souffrance, 7 ans après avoir déposé plainte au commissariat.
Les faits remontent donc entre 2014 et 2016. Et à chaque fois, les investigations révèlent un même mode opératoire, comme une forme d'industrialisation du processus de rencontre mis en place. Vincent Vantinghem, grand reporter au service police-justice de BFM TV.
Il se présentait sur les applications de rencontre comme un photographe professionnel, un photographe de mode, et il repérait des jeunes femmes à qui il proposait des séances photos, des shootings gratuits. Mais toutes les plaignantes racontent que ces séances photos se sont transformées en cauchemars avec des relations sexuelles imposées, certaines prétendant avoir été obligées de consommer beaucoup d'alcool, d'autres ayant des souvenirs altérés, se demandant si elles n'ont pas été droguées.
Un mode opératoire semble donc avoir été mis en place par cet homme. Son discours, parfaitement rodé, est même précisément décrit dans des fichiers informatiques retrouvés par les enquêteurs. Des phrases d'accroche, des compliments, puis des propositions envoyées en masse à de potentiels mannequins. Une fois sur place, il leur offre un verre d'alcool, voire plusieurs. Des boissons qui, d'après les analyses toxicologiques pratiquées sur plusieurs plaignantes, contiennent de la drogue. Des traces d'ecstasy ou de médicaments ont été révélées après des analyses de cheveux. Des analyses pratiquées donc sur des femmes ayant décrit une ivresse anormale et rapide le jour des faits. Bref, cela fait évidemment penser à de la soumission chimique. Maître Martine Moscovici, avocate de 3 des 17 plaignantes.
Il y a eu une prise d'alcool assez importante. Et certaines ont dit qu'elles ont été droguées. L'analyse des cheveux a démontré qu'il y avait des substances qui n'auraient pas dû être dans les cheveux et qui pouvaient conduire à l'endormissement. À la suite de cela, il s'est livré soit au viol, soit à l'agression sexuelle.
La journaliste police-justice de BFMTV.com, Manon Aublan, qui suit le procès, raconte notamment l'histoire de Bethany. Le prénom a été changé. Cette jeune américaine de 22 ans étudie en France quand elle fait la connaissance de Salim Berada sur un site qui met en relation photographes et modèles. Après quelques messages échangés, il lui propose un shooting. L'étudiante accepte et un rendez-vous est pris dans le studio du photographe situé dans le 20e arrondissement de Paris. Nous sommes le 7 janvier 2015. Bethany est très enthousiaste à l'idée de cette rencontre, car le photographe est reconnu dans le milieu. Manon Aublan écrit ceci sur bfmtv.com.
Vers 19h, l'homme vient la chercher lui-même à la sortie du métro Gambetta. Mais après 2 ou 3 verres de vin, Bethany est prise de vertige. Elle a la tête qui tourne. La suite pour la jeune femme est floue. Elle se retrouve nue sur le canapé. Selon son récit, Salim Berada est debout, face à elle, le sexe en érection. Il lui demande une fellation que Bethany refuse. Toujours selon son récit, le jeune homme va la violer. Bethany finit par réussir à se relever, mais elle peine à marcher. Elle a l'impression de ne plus contrôler ses muscles, elle se cogne partout. Elle quitte le studio, certaine que Salim Berada l'a droguée. Elle porte plainte pour viol, 4 mois plus tard, le 25 avril 2015, après en avoir parlé avec ses parents.
Salim Berada va être accusé par 16 autres femmes de faits similaires. Aussitôt, il nie les faits et garde la même ligne de défense. Pour lui, elles étaient toutes consentantes. Au cours de l'instruction, l'homme admet que les séances photos constituaient un prétexte pour obtenir des relations sexuelles avec des jeunes femmes. Mais selon lui, elles étaient toutes d'accord. À la barre, ce 18 mars 2024, une majeure de police est appelée à témoigner. Elle raconte notamment les perquisitions.
Au domicile de Salim B, tout le matériel informatique et téléphonique a été saisi, ainsi que des médicaments, des bouteilles d'alcool et des boîtes de préservatifs.
La policière à la barre précise alors que Salim B confie ceci aux enquêteurs.
Il a reconnu une addiction au sexe.
La policière, qui a entendu l'accusé à plusieurs reprises, décrit quelqu'un de calme, posé. Et voici ce qu'elle ajoute au sujet des plaignantes.
Quand je les entends, je leur demande toujours à la fin si elles se connaissent entre elles. Elles ne se connaissent pas et elles ne se sont pas liguées contre Salim B. L'affaire a été médiatisée et cela leur a permis de porter plainte contre Salim B.
La policière explique aussi que cette affaire l'a marquée par le grand nombre d'auditions, le temps passé à relire les procédures, la pluralité des plaignantes, le mode opératoire, cette sensation qu'ont eu les victimes de dire que Salim B était repoussant, qu'il ne sentait pas bon. Placé en détention provisoire en 2016, Salim Berada est resté 2 ans et demi en prison avant d'être relâché sous contrôle judiciaire en 2019. Relâché avec interdiction d'exercer le métier de photographe. Plusieurs plaignantes signalent alors à la justice son activité importante sur les applications de rencontres. Visé par 6 nouvelles plaintes, il a de nouveau été mis en examen pour viol et agression sexuelle. Cette enquête-là est toujours en cours. Salim Berada est retourné en prison en juillet dernier. Il comparaît aujourd'hui détenu et risque jusqu'à 20 ans de détention. Bonjour Sandrine Josso.
Bonjour.
Vous êtes députée MoDem de Loire-Atlantique. En novembre 2023, vous avez porté plainte contre Joël Guerriau, sénateur accusé d'avoir versé de l'extasie dans votre verre. Il plaide une erreur de manipulation. Il est mis en examen pour administration d'une substance en vue de commettre un viol ou une agression sexuelle. C'est depuis votre combat, et c'est aussi pour cela que j'ai voulu que vous témoigniez dans le titre à la une, car vous le dites, la soumission chimique, le fait de droguer quelqu'un pour en abuser, est beaucoup plus répandu qu'on ne le pense. Le procès du violeur de Tinder, où ces femmes racontent le même mode opératoire, en est une illustration. Je précise que l'accusé est présumé innocent jusqu'à la fin du
procès. La loi française, pour l'instant.
Voilà, Sandrine Josso, comment allez-vous, 4 mois après ce qui vous est arrivé ?
Eh bien, après ces 4 mois, ce serait vous mentir de dire que je vais bien. Parce que pour toutes les personnes qui sont victimes comme cela, on vit au quotidien avec un stress post-traumatique qui met un peu de temps à disparaître. Donc, j'accepte les pertes de mémoire, les angoisses, mon sommeil haché. Je suis bien accompagnée, mais néanmoins, au quotidien, voilà, c'est pénible en fait.
Vous êtes mère de famille.
J'ai 3 enfants.
Vous avez 3 enfants. Comment ils ont réagi ? Est-ce que vous leur avez expliqué ce qui vous est arrivé ?
Tout de suite, j'ai une fille qui a 22 ans. Je lui ai expliqué immédiatement parce qu'elle elle est aussi sur les réseaux sociaux. Donc, j'avais vraiment besoin de l'informer. Donc, je l'ai vue très rapidement. Donc on a parlé ensemble, je lui ai expliqué tout ce qui m'était arrivé. Elle m'est venue tout de suite en soutien, mais elle m'a dit « Maman, j'ai confiance en toi, je sais que ça va aller ». Et puis ma deuxième, qui a 16 ans, qui est un peu plus rebelle, elle m'a dit « Mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que ce mec ?» et mon fils, par contre, eh bien, il a 8 ans. Alors lui, il a mal vécu les choses parce que il avait peur de me laisser seule dans la maison quand lui allait donc à l'école. Je pense que c'est lui qui a eu plus de conséquences en fait. Et c'est là qu'on se dit que finalement, il y a des conséquences collatérales à ce genre de situation qui sont quand même énormes et très impactantes.
Vos filles ont l'âge, en tout cas pour la plus grande, de sortir, d'aller peut-être en boîte de nuit. Moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, mes parents me disaient attention, fais bien attention à ce que personne ne mette rien dans ton verre. Mais malgré ça, on se rend compte que la soumission chimique, eh ben, elle n'arrive pas que dans les boîtes de nuit. Au contraire, même.
Oui, vous avez raison, et c'est ce que j'ai découvert à mes dépens. En fait, elle arrive très souvent dans la sphère familiale, amicale. Pas spécialement dans les boîtes de nuit, dans les soirées, voilà, entre amis. On connaît en général l'agresseur parce que il fait partie de notre environnement et c'est ça qui est assez terrible. On est doublement trahi.
Parce qu'on est en confiance.
Absolument.
C'était votre cas le soir où vous avez été agressée.
Oui, je connaissais donc ce sénateur depuis 10 ans. Et donc, quand j'ai compris ce qui m'arrivait, eh bien, j'ai dû, d'une part, encaisser la situation et, d'autre part, me dire que, finalement, mon rapport à l'autre, eh bien, il était aussi très malmené dans cette histoire-là. Parce que comment on peut faire confiance après ?
Vous dites aujourd'hui que la soumission chimique est sous-estimée. La difficulté, c'est que c'est le crime presque parfait parce que si la victime ne fait pas des analyses tout de suite, dans les heures qui viennent, les preuves, en fait, elles disparaissent complètement. Comment est-ce que vous avez eu ce réflexe ?
Eh bien, parce que j'étais bien entourée. C'est-à-dire que, déjà, j'avais une conscience professionnelle. C'est-à-dire qu'en sortant, en m'échappant de chez le sénateur, dès que j'ai compris qu'il avait mis quelque chose dans mon verre, je devais retourner à l'Assemblée nationale parce que je portais une délégation de vote d'un collègue qui était malade. Et là, en arrivant à l'Assemblée nationale, je ne pouvais pas sortir de mon taxi. Donc, j'ai appelé un de mes collègues députés de la commission des lois. Et il m'a aidée à sortir du taxi. Et
il a bien vu que vous n'étiez pas dans votre
voilà, il a bien compris que j'étais droguée et il connaît tous ces sujets étant donné qu'il est dans cette commission. Et il m'a dit, il faut vite des preuves. Et finalement, heureusement que je suis tombée sur quelqu'un qui connaissait parce que le premier réflexe, vous serez d'accord avec moi, c'est de dire « Oh bah t'es pas bien, va te coucher, ça ira mieux demain ». Mais heureusement que lui, il avait vraiment cette obsession de me dire « Il faut vite que tu ailles faire des examens pour prouver ». Et j'ai vraiment eu beaucoup de chance d'avoir aussi voilà, ce collègue ce soir-là qui m'a donné ce conseil.
Vous avez été depuis missionné par le Premier ministre Gabriel Attal pour plancher sur la soumission chimique. Comment est-ce que le Premier ministre vous a demandé ça ?
Alors, quand ça m'est arrivé, donc c'était le 14 novembre dernier, c'était l'ancienne première ministre, Madame
Elisabeth Borne. Ouais.
Voilà, donc elle a été tout de suite en soutien et j'ai mobilisé donc Matignon immédiatement en leur disant qu'il fallait à tout prix s'occuper de ce fléau. Quand il y a eu un remaniement, tout de suite, le dossier a été transmis à Gabriel Attal, qui lui aussi, lorsque ça m'est arrivé, a été tout de suite un très grand soutien. Il m'a écrit des messages et ils ont compris la nécessité déjà de pouvoir recenser toutes les victimes parce qu'aujourd'hui on n'a pas de moyen de recenser les victimes. Ce qui se passe, c'est que si on est victime par exemple dans un territoire rural où il n'y a pas de gendarmerie, où personne ne peut vraiment vous accompagner pour faire une prise de sang, la victime elle reste avec on va dire cette épreuve épouvantable et puis elle ne dit rien et elle ne sait parfois plus ce qui lui est arrivé. Donc moi, ce que je voudrais, au bout de cette mission qui va durer 6 mois, Cette mission, elle va consister à auditionner les professionnels, les associations, les victimes, toutes les personnes qui peuvent nous apporter un support, nous apporter des solutions par rapport à cette prévention de la soumission chimique. Je voudrais que partout en France, dans tous les territoires, on puisse identifier les victimes, les croire, bien les accompagner et les aider pour leur réparation derrière.
Est-ce que ça passe pas aussi par l'école ? Il y a beaucoup de choses qui passent par l'école, mais est-ce qu'il faut pas aller justement témoigner dans les écoles, prévenir les jeunes filles, puisque dans 9 cas sur 10, ce sont des jeunes femmes qui sont victimes.
Oui, vous avez raison, témoigner dans les écoles. Et puis là, vous soulevez, en me posant cette question, un sujet important, parce que malheureusement, la soumission chimique, elle touche aussi beaucoup les enfants, malheureusement, à des fins d'inceste. Et ça aussi, c'est un vrai sujet qu'on ne connaît aujourd'hui que trop peu. Donc évidemment qu'il y a un vrai sujet dans les écoles et après bien sûr au collège, au lycée et partout auprès de tous les professionnels finalement, que ce soit les professionnels médicaux, les professionnels du monde social, éducatif et bien sûr du judiciaire.
Vous avez une force de caractère qui est admirable, c'est-à-dire que vous n'êtes jamais tombé, vous restez debout.
Oui.
Et c'est cette mission qui vous tient debout.
Oui. Alors cette mission, bien sûr, je l'ai commencée finalement dès le soir où j'étais à la Riboisière, parce que c'est dans ma personnalité de comprendre. Et j'étais tellement sidérée par ce qui m'était arrivé que j'ai demandé aux médecins, aux infirmières, aux aides-soignants, mais qu'est-ce qui se passe, comment c'est possible que ça arrive. Et eux, ils me disaient, mais madame, c'est notre quotidien, c'est des personnes comme vous, c'est 3 par jour. Et je leur demandais, mais quel âge, qui, pourquoi.
Comme une journaliste finalement.
Oui, finalement, exactement. Et c'est là que j'ai compris l'ampleur des dégâts et des ravages, parce que suite à ça, eh bien, sur tous les réseaux sociaux, sur ma boîte mail de l'Assemblée nationale, j'ai reçu des milliers de témoignages. Et au regard des plaintes qui sont recensées et des signalements, je me dis que ce n'est pas possible. Moi, en très peu de temps, j'ai eu autant de témoignages. Ça veut dire qu'on n'a pas du tout recensé toutes les victimes de soumission chimique. Donc ça va être aussi très important dans mon rapport.
Je vous remercie beaucoup, Sandrine Josseau, d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la Une.
Merci.
Et merci à Eva Serraiol pour le montage de cet épisode. Merci également à Manon Aublanc du site bfmtv.com. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à le partager, à le commenter sur toutes les plateformes. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode et tous les soirs à 19h30 sur BFM Radio.
Vous avez aimé le titre à la Une, découvrez la question info. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'écart de niveau entre le public et le privé. 7 lycées publics seulement sont dans le top 50. Les autres sont privés. Le ministère de l'Éducation vient de publier des indicateurs de réussite des lycées, taux de réussite au bac, taux de mention et leur valeur ajoutée. Mais alors comment expliquer un écart de niveau entre le privé et le public ? J'ai posé la question à Mathieu Delager, directeur adjoint de la rédaction de bfmtv.com. La question info, c'est un podcast à retrouver tous les jours sur le site et l'application de BFM TV et sur toutes les plateformes d'écoute.